France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cours de mes interventions dans cette émission sur l'inconscient, j'ai choisi de vous parler d'une parole entendue lors d'une séance. Une parole qui peut être celle de beaucoup d'entre nous, d'une expression, d'un mot, pour vous évoquer la façon dont j'exerce la psychanalyse, la façon dont on peut entendre l'inconscient et travailler avec l'inconscient, la façon d'être travaillé par l'inconscient. La séance dernière, je vous ai parlé d'une situation clinique qui peut être difficile, celle du deuil. Pourquoi continuer? Vais-je lui survivre? Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous à ce qui fait la technique spécifique du travail de psychanalyste. Je voudrais réfléchir avec vous sur le transfert. Un mot qui circule beaucoup lorsqu'on parle de psychanalyse. Il y a quelques jours, un patient me dit « Je vous ai entendu à la radio. Vous étiez dans mon salon. J'ai trouvé ça bizarre. Votre place est ici quand je viens vous voir. Ici, pas dans mon salon. » Une autre me dit « Vos mots sont comme des caresses. D'ailleurs, pourquoi vous ne me prenez pas dans vos bras ?» Il arrive souvent que j'entende « Ce que je voulais vous dire était très clair avant de venir et maintenant, je ne sais plus comment le dire. » Ou encore « Je vous déteste. » Et je vous aime. Et parfois encore, on peut me dire « Depuis que je viens vous voir, j'ai recommencé à rêver. » Voilà quelques manifestations exprimées de ce que nous pouvons appeler le transfert. Et que depuis Freud, nous appelons l'amour de transfert. Mais il ne s'agit pas de réduire le transfert à être amoureux de son analyste, comme on le pense souvent. Ce n'est pas aussi simple. De l'aveu même de Freud, le transfert est, comme il le dit, la véritable force motrice de l'implication du patient dans le travail analytique. Quelle est cette étrange et véritable force? Comment la comprendre? Qui transfère quoi sur qui? Et quels sont les effets thérapeutiques du transfert? Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur le transfert, je répondrai aux questions que m'ont adressées sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient avec Laurie Lefebvre sur France Inter.
Un patient me dit un jour « J'ai lu quelque chose de vous, j'ai trouvé ça super, mais en fait je préfère vous lire que de venir. » J'ai souri en entendant ces paroles. Il poursuit « Comment ça marche si vous ne me dites presque rien ?» Je souris de nouveau. Et je lui dis « Mais c'est vous qui savez. » Comment comprendre ce qui fait la spécificité du lien au cœur de l'expérience analytique? La spécificité et l'étrangeté de ce lien. Car vu de loin, il paraît assez étrange et singulier que quelqu'un vienne une, deux, trois fois dans la semaine parler à une personne qu'il ne connaît pas, parler, pleurer, crier, régler sa séance et partir jusqu'à la prochaine fois. Freud parle toujours du transfert en soulignant son étrangeté. Le caractère surprenant, déroutant et parfois très intense du transfert. Dans les premières élaborations théoriques sur le transfert, Freud lui attribue une double fonction, actualisation du passé et déplacement sur la personne de l'analyste. Séduire l'analyste, l'insulter.
Arrêtez avec vos conneries. Ça m'aide pas du tout, vous voyez bien que je suis au fond du trou. Mais si vous me dites encore une seule fois que je suis normale, je me casse d'ici.
Le mépriser, le désirer, en avoir peur. Se taire.
Je vous attends la semaine prochaine, à la même heure. Je sais pas.
Raconter un rêve formidable, selon les mots d'un patient.
Ok, hier soir, j'y rêvais de mon père.
Sont autant d'affects et de mouvements transférentiels adressés à l'analyste. Une patiente me raconte un rêve en me disant d'emblée que ce rêve l'a gênée. Elle raconte son rêve. Nous étions dans le métro, vous et moi. Nous nous regardions avec beaucoup de complicité, d'intensité. Et d'un coup, je vous prends aussi la main. Je répète, en relevant interrogative, « aussi ». Et soudainement, elle se met à sangloter sans que je ne comprenne ce qui vient de se passer pour elle. Le transfert est ce lieu de surgissement qui peut surprendre et l'analyste et le patient. Étrange, singulier, il appartient à la grammaire subjective du patient. Et cette grammaire n'est possible qu'adressée à l'analyste. Freud, dans ses premiers écrits, analyse le transfert. Selon lui, l'analyste, par sa seule présence, se propose comme objet de transfert. Il écrit, je cite Freud, « La patiente reporte sur la personne du médecin les représentations pénibles nées du contenu de l'analyse. C'est là un fait constant dans certaines analyses. » Freud poursuit, « Le transfert au médecin se réalise par une fausse association. » Chaque fois que ma personne, dit Freud, se trouve impliquée, je peux postuler l'existence d'un transfert et d'un faux rapport. Et Freud continue en disant « Chose bizarre, les malades sont en pareil cas toujours dupes. » Que dit Freud ? Impliqué, c'est-à-dire que le patient peut prendre l'analyste pour son père, pour sa mère ou un proche, et cela de façon inconsciente. Cette duperie de l'inconscient, qui soumet les patients à cette étrangeté du transfert, ne cesse de surprendre Freud. Et dans son dernier ouvrage, en 1938, il continue de le considérer comme une chose étrange. Freud ne cessera de trouver « bizarre », selon ses termes, cette fausse association, ce faux rapport dont les patients sont dupes. Il y a donc, dit-il, « erreur » sur la personne. Mais ce faux rapport est paradoxalement le vecteur même du dispositif dont l'analyste n'est pas dupe lui-même. C'est pourquoi Freud parle d'une duperie nécessaire. Lui emboîtant le pas, le psychanalyste Jacques Lacan avance que le transfert est une tromperie, un leurre, une illusion, qui consiste pour le patient à installer l'analyste en position de sujet supposé savoir. Sujet supposé savoir sur le désir inconscient du patient. En fait, le patient suppose un savoir à l'analyste. Il lui fait confiance sur ce savoir. Jacques Lacan a inventé l'expression « sujet supposé savoir ». C'est l'outil indispensable de l'analyse. Amour, savoir, mouvement, telles sont les forces du lien transférentiel. Comme le dit Jacques Lacan, au commencement de la psychanalyse est le transfert. Le transfert est donc le ressort essentiel de l'aventure et de l'expérience de l'analyse. La condition de possibilité pour le patient d'accéder au savoir de son propre désir inconscient. Au début de son parcours théorique et clinique, Freud croyait aux effets cathartiques et thérapeutiques de l'évocation des souvenirs retrouvés. Il pensait qu'il suffisait au patient de retrouver le souvenir du traumatisme et de l'exprimer pour qu'il soit guéri de ses symptômes. Or, peu à peu, confronté à la clinique, Freud s'aperçoit que les patients répètent, voire intensifient leurs symptômes, résistent lorsqu'il s'agit d'en parler, revivent lors de séances des émotions ou des situations oubliées ou refoulées. Il constate donc qu'il y a parfois des moments, comme il dit, d'aggravation de symptômes. Il parle alors, et je le cite, de maladie artificielle due au transfert. Il appelle ça, d'ailleurs, une névrose de transfert. En somme, lorsque certains symptômes s'intensifient, Eh bien, cela peut être bon signe, selon Freud. Il se produit comme un effet de loupe sur certains symptômes. Un effet de loupe qui permet d'atteindre une lisibilité plus grande des symptômes. Cette maladie artificielle, comme dit Freud, est rendue possible par la force du lien transférentiel entre l'analyste et le patient. La clinique préanalytique, qui reposait sur les méthodes cathartiques, parfois proches de la suggestion, se complexifie donc par la découverte ou le constat de Freud d'un désir inconscient suscité par la rencontre entre le médecin et le patient. Freud comprend que le patient met l'analyste à une certaine place et qu'il lui adresse des paroles en fonction de cette place-là. En somme, la psychanalyse n'est plus seulement l'analyse des symptômes ou un travail de remémoration des traumatismes, mais un dispositif qui permet l'actualisation d'un conflit inconscient, son intensification. Et ce qui est important, c'est que l'un des symptômes essentiels est l'analyste lui-même. Ainsi se structure la spécificité de la psychanalyse freudienne, la rencontre transférentielle. Au début, donc, pour Freud, il s'agit d'interpréter les transferts, c'est-à-dire les déplacements imaginaires sur des représentations imaginaires. Les parents, les ancêtres, seraient représentés par l'image de l'analyste. Puis Freud a affiné la technique en parlant non plus des transferts, mais du transfert, et même de l'amour de transfert.
Quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai vu un skate dans l'herbe. Il est à votre fils ou à votre fille?
Tu veux savoir si j'ai des enfants?
C'est sûr. Vous en avez, vous êtes un daron, vous. Ouais, mais vous, vous êtes un super père. Vous avez écouté, puis je suis sûre que votre fils est un super fils.
L'inconscient, avec Laurie Lefebvre, sur France Inter.
Je voudrais revenir sur cette phrase entendue que je vous ai dite au début de l'émission. Ce patient qui dit « Ce que je voulais vous dire était très clair avant de venir et maintenant, je ne sais plus comment vous le dire. » Cette phrase est très intéressante, car elle montre bien que ce qui est important dans le transfert, ce n'est pas seulement ce que le patient va raconter. Ce qu'il va dire, le contenu, mais comment il va le dire? C'est l'énonciation, la façon dont il s'adresse à l'analyste. Jacques Lacan identifie le transfert à l'acte de parole. Je cite Jacques Lacan. « Chaque fois qu'un homme parle à un autre d'une façon authentique et pleine, il y a au sens propre transfert. » Il y a donc, selon Jacques Lacan et Freud, une notion d'adresse, le patient s'adresse à son analyste, il y a là un mouvement. Le transfert est mouvement subjectif, psychique, physique parfois, mouvement qui s'adresse à l'autre, mouvement temporel, qui conjugue différents moments, passé, présent, futur. Un mouvement qui permet au patient de transformer quelque chose. Un patient me dit un jour « Je m'appuie sur vous, sur vos mots, même s'ils sont rares, pour me transformer. » Un autre me dit « Je vous parle beaucoup plus en dehors des séances. » Et encore cette phrase, entendue de nombreuses fois. « Ce que je dis là, cela me revient en vous parlant. » Vous voyez, le transfert est donc une certaine façon de s'adresser à son analyste. Un acte de parole, pas seulement donc un déplacement sur les images des parents ou des ancêtres, une parole prise dans un certain affect. Une patiente me dit qu'elle n'ose pas employer certains termes issus de la psychanalyse car elle craint que je la juge et que je me moque d'elle. Vous l'entendez, la notion de transfert se complexifie. Et Freud, je le cite, écrit ceci. l'on se rend bien compte de l'importance insoupçonnée de ce facteur qui, d'une part, offre un secours irremplaçable et, d'autre part, peut aussi constituer une source de péril grave. Ce transfert, écrit Freud, est ambivalent et comporte à la fois des attitudes tendres, positives, et hostiles et négatives à l'égard de l'analyste. Le transfert devient donc à la fois remède et poison dans le travail analytique. À la fois source d'inhibition, d'angoisse et de résistance, comme cette patiente qui dit « je n'ose pas vous en parler ». Ou bien condition de possibilité de déplacement subjectif. « Je n'avais jamais pensé à cela avant de vous en parler », me dit ce patient. C'est pourquoi, à la fois poison et remède, le transfert apparaît à Freud d'une extraordinaire complexité, voire d'une inquiétante étrangeté, selon son expression. Pour Freud, le transfert ne relève ni du normal, ni du rationnel. Ce qui donne au transfert son aspect particulier, c'est le fait qu'il dépasse la mesure et s'écarte, de par son caractère même et son intensité, de ce qui serait normal et rationnel. Voilà ce que dit Freud. L'intensité du transfert, la violence de ses affects, peuvent faire vaciller le travail analytique. Il ne suffit pas à l'analyste que je suis de susciter le transfert, de me faire l'objet du transfert. Encore faut-il le soutenir, l'accueillir, surtout lorsque son intensité peut paraître débordante. Il est arrivé qu'une patiente arrête son travail parce que c'était trop, a-t-elle dit. J'ai reçu un jour un message par mail avec un « merci » et un cœur en émoticône.
Vous me l'offrez ?
Oui. J'ai retrouvé chez moi, ça m'a fait penser à vous.
C'est très gentil à vous. Merci.
C'est mon cadeau d'adieu. C'est bien nos dernières séances aujourd'hui.
Une autre fois, un patient qui avait arrêté son analyse au moment du Covid m'envoie un message m'écrivant des bribes d'un rêve. Sur le message qu'il m'envoie est écrit « Il y avait marqué sur un chèque votre nom et 2 zéros à côté ». Je lui écris donc de venir me raconter son rêve. Il ne m'a jamais répondu.
Vous choque, ce que je raconte?
Non.
Mais ça vous excite?
Franchement, ça doit pas être la première fois qu'une patiente tombe amoureuse de vous. Et vous êtes psy depuis combien de temps? Ça fait 30 ans. Ça doit pas être la première fois, vous êtes censé gérer ce genre de situation, non?
L'histoire est connue, celle de Anna O, dont on dit qu'elle a inventé la psychanalyse d'ailleurs. Nous sommes en 1885. La patiente souffre de multiples symptômes invalidants et consulte Joseph Breuer, qui était un collègue de Freud. Elle développe pour lui un véritable amour passionné. Débordée par cet amour dont il ne sait que faire, Joseph Breuer interrompt l'analyse avec Anna O et l'adresse à Freud. Freud écrit pour relater cette histoire, je le cite, « Surgit alors une complication inattendue. Ce fut peut-être la plus grande des surprises pour l'analyste. Le sentiment que la malade se met à lui porter est d'une nature toute particulière. » Freud poursuit, « Le premier médecin qui tenta une analyse se heurta à ce phénomène et en fut décontenancé. Ce sentiment est en effet, pour parler clair, de nature amoureuse, dit Freud. » Voilà qui est curieux, n'est-ce pas? Or, on trouve toujours dans la situation analytique cet amour compulsionnel, écrit-il encore. Et cet amour compulsionnel, on ne peut lui trouver une explication rationnelle. Et plus tard encore, Freud, qui ne cesse d'analyser les braises de cet amour transférentiel, en fait état à Jung, un de ses disciples psychanalystes. Jung est en pleine tourmente avec sa patiente Sabina Spielrein. Freud écrit à Jung « Tu es avec le diable et tu veux craindre les flammes. » Et il poursuit dans sa lettre « Ce sont les risques du métier pour lesquels nous n'abandonnerons certainement pas le métier. » Bref, rien ne nous permet de dénier à l'état amoureux qui apparaît au cours de l'analyse le caractère d'un amour véritable, écrit Freud. Dans une analyse, donc, dans le cadre transférentiel, le patient fait l'expérience de l'angoisse, de la détresse et de l'intensité de l'amour. L'aventure de l'analyse n'est pas seulement une quête de souvenirs, une recherche de sens ou de cause des raisons pour lesquelles nous sommes comme ceci ou comme cela. C'est une expérience de transformation par l'amour. En somme, comme l'écrit Freud encore à Jung, c'est une guérison par l'amour. Bien plus que de découvrir des éléments de son histoire, le patient fait une certaine expérience de lui-même par l'expérience du transfert. Le transfert est donc un savoir sur l'amour, amour qu'il faut entendre comme un élan vital, comme le dieu de l'amour, Eros, comme pulsion de vie qui combat les pulsions de mort. L'expérience du transfert, c'est ce combat entre pulsion de vie et pulsion de mort. Je voudrais vous relater un moment d'une analyse pour vous faire entendre comment le transfert peut agir. Une patiente a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans un pays en guerre. Elle vivait chez ses parents dans l'angoisse quotidienne qu'une bombe ou une balle de sniper ne traverse le salon et tue l'un des siens. Elle avait été témoin d'un tir de roquette qui avait tué ses voisins. Elle était souvent terrifiée, dans une détresse hors langage. Prise d'angoisse, il est arrivé parfois qu'elle se lève dans mon cabinet et quitte la pièce en claquant la porte, sans que je ne comprenne pourquoi. Une autre fois, elle s'est levée et a pris une fleur dans un vase posé sur une table du cabinet, sans dire un mot. Elle me faisait penser à ce que dit l'écrivain Aaron Appelfeld dans son très beau livre « Histoire d'une vie » lorsqu'il raconte sa fuite dans la forêt pour échapper aux horreurs de la guerre. Je le cite. « Les peurs étaient puissantes et parlaient la même langue que les visions qui ressurgissaient. Il était manifeste que ces années-là étaient enfouies dans mon corps. La guerre s'était terrée dans mon corps, pas dans ma mémoire. » Je n'inventais pas, je faisais surgir des profondeurs de mon corps des sensations et des pensées absorbées en aveugle. À présent, je le sais, même si j'avais su alors formuler mes pensées, cela n'aurait pas aidé. Ce très beau passage montre comment dans le transfert, il ne s'agit pas seulement de dire quelque chose, de formuler des pensées, mais aussi de laisser émerger des terreurs, des sensations corporelles, et que l'analyste puisse les accueillir. Et ces sensations peuvent prendre des formes inattendues. Cette patiente dont je vous parlais, qui connaissait les terreurs et les horreurs de la guerre, me dit « Vous, les psys, vous ne comprenez rien. » Pourquoi vous ne me dites rien? J'ai vécu l'horreur et vous ne me dites rien. Parfois, elle se levait elle-même sans attendre le signe de la fin de la séance et elle partait. Parfois encore, elle s'allongeait et commençait à parler dans la langue de son pays natal. De toute façon, vous ne comprenez rien, alors je peux vous parler comme je veux, me disait-elle sèchement. Par la façon de s'adresser à moi dans une langue qui m'est étrangère, la patiente ne vise pas à me communiquer quelque chose, ne vise pas un contenu dans une même langue. elle crée un espace autre. Quant à moi, la position que je peux prendre dans ce transfert est une position qui peut lui permettre cette adresse. Je ne suis pas intervenue, je ne lui ai pas signifié que je ne comprenais pas la langue qu'elle m'adressait. Cette position d'abstention, cette position neutre, même si elle me l'a reproché, m'a semblé opérer un changement dans son travail ultérieurement. Cette position a eu un effet d'interprétation. Mais tous les silences ne font pas interprétation. Un jour, lorsque j'étais moi-même analysante, lors d'une de mes séances d'analyse, je me plaignais de mes études de psychologie que je souhaitais interrompre. L'analyste avec laquelle je faisais mon analyse à l'époque me dit « continuez ». Je me rappelle après coup que ce mot a eu un effet d'interprétation, c'est-à-dire qu'il est entré en écho avec le désir que j'avais de continuer mes études en dépit de ma plainte. Or, elle avait peut-être dit ce mot non pas par rapport à mes études, mais par rapport à ma parole, ou que sais-je, peut-être me disait-elle de continuer de parler, ou de continuer de venir, ou « qu'est-ce que vous souhaitez continuer ?» Une interprétation a un effet dans le transfert si elle permet de faire émerger quelque chose du désir du patient. C'est pourquoi toute intervention, toute parole de l'analyste ne fait pas interprétation. C'est la difficulté du maniement du transfert. Car je le rappelle, le transfert est la technique spécifique de la psychanalyse qu'il convient de savoir manier. Le transfert, comme le dit Freud, est une matière explosive. Effectivement, Freud a souvent mentionné les transferts tumultueux, comme il dit, où le psychanalyste manipule les matières les plus explosives. Rappelant d'ailleurs quelques échecs de cure avec des patientes qui l'ont quitté sans ménagement. C'est le cas par exemple de cette jeune patiente Sidonie qui se moque de lui lorsqu'il lui fait une interprétation qu'elle trouve déplacée. Freud écrit, je le cite, « L'analyse se déroula pour ainsi dire sans le moindre indice de résistance. L'analysée était très coopérante du point de vue intellectuel, mais sans se départir de sa tranquillité d'âme. Un jour que je lui expliquais un point de théorie particulièrement important, et qui la concernait de près, elle me fit cette répartie sur un ton inimitable. « Ah, mais c'est très intéressant !» Telle une dame du monde que l'on promène dans un musée et qui considère avec distance des objets qui lui sont parfaitement indifférents. La cure n'a pu se poursuivre entre elle et Freud. « Ah, mais c'est très intéressant !» La patiente se moque de Freud. Ce passage est très instructif. Car la question du transfert ne passe pas par un savoir théorique de l'analyste. Freud est destitué de sa position d'autorité et de sa position à vouloir imposer un savoir théorique. Aussi, Freud échoue-t-il avec Sidonie parce qu'il lui impose un savoir qui n'entre pas en résonance avec ce qu'elle sait inconsciemment d'elle-même.
L'inconscient avec Laurie Lofer sur France Inter.
Je l'ai déjà évoqué, le patient suppose un savoir à l'analyste. Mais un savoir de quoi ? Le patient suppose à son analyste un savoir sur ce qui le fait souffrir et aussi sur son propre désir. Du fait même qu'il vient en analyse parce qu'il ne sait pas ce qu'il a, les raisons de ses souffrances, de ses inhibitions, de ses angoisses, de ses désirs, il vient interroger l'analyste sur tous ces points. Le patient pense qu'il ne sait pas ce qu'il désire. Il investit donc l'analyste en lui supposant ce savoir. Mais comme le philosophe Socrate, l'analyste sait qu'il ne sait rien. Et ce rapport au savoir qu'il ne maîtrise pas est le lieu du transfert. Car ce que l'analyste est supposé savoir, c'est ce qu'il a lui-même vécu dans et par le transfert, dans sa propre analyse, dans les traversées du transfert. Amour, angoisse, détresse, tel est son savoir. Si le psychanalyste sait quelque chose, c'est ce qui relève de cet amour de transfert, lui-même en ayant fait l'expérience singulière. Cet amour intense, étrange, un amour qui opère des déplacements subjectifs, il l'a vécu. On n'est plus tout à fait le même quand on aime, quand l'amour est une souffrance autant qu'une puissance. L'analyste aussi vient de loin, comme le dit Ferenczi, le disciple de Freud. Ce savoir du transfert, il l'a traversé au cours de sa propre analyse. Il l'a éprouvé, avec amour et angoisse, avec intensité et détresse, les deux ressorts qui permettent de se déplacer dans une analyse. Le transfert est donc tout un art. Ferenczi évoquait le tact nécessaire à l'analyste dans certaines situations de cure. Être exposé aux foudres du patient, être l'objet de ses flammes, être supposé savoir, être un objet précieux autant qu'un objet que l'on abandonne, tels sont les avatars du transfert. « Je vous quitte », me dit une patiente. « Merci pour tout », dit-elle, sans en dire plus. Je reste plantée là, sans avoir pu lui dire qu'il serait sans doute important d'en savoir un peu plus sur la fin de l'analyse. Je reste sans savoir. Sans doute, elle sait désormais quelque chose de ce qui l'a menée là. Ferenczi parlait du rôle de culbuto pour qualifier la position de l'analyste. Le culbuto est un jouet traditionnel, un petit personnage dont la base arrondie est lestée, de sorte que même si le jouet est frappé ou renversé, il se redresse toujours et revient à la verticale en oscillant. D'ailleurs, Ferenczi avait même utilisé l'image du punching ball pour imager la position de l'analyste. En somme, se prêter au rôle de culbuto, se faire l'objet et le réceptacle de l'intensité de l'amour et de la haine de son patient, afin qu'il accède à un certain savoir de lui-même, telle est la technique du transfert. Une véritable force motrice, un risque du métier pour lequel nous n'abandonnerons certainement pas le métier. Comme le disait Freud. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui autour des phrases concernant le transfert.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Laurie Lefebvre.
Je répondrai dans un instant aux questions que m'ont adressées les auditrices et les auditeurs qui ont déjà écouté cet épisode en podcast. N'oubliez pas que vous pouvez déjà nous laisser vos questions et remarques pour les prochains épisodes, qui sont déjà disponibles sur les plateformes d'écoute, et que vous pouvez nous laisser, avant la diffusion à l'antenne, vos questions sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Mais pour l'instant, avant nos échanges, nous écoutons Tame Impala, Let It Happen. C'est à vous maintenant de poser vos questions et je vous écoute.
Bonjour, je suis Jean-Luc. Le transfert est au cœur de la relation analytique avec son maniement dans la cure par le psychanalyste. Mais j'aimerais savoir comment vous appréhendez la première rencontre. Vous savez, ce premier contact téléphonique, le premier rendez-vous en présentiel ou maintenant peut-être en distanciel. Voilà. Comment vous appréhendez pour que ce mouvement transférentiel opère chez le patient? Merci de votre réponse. Au revoir.
Merci Jean-Luc pour votre question. Je dirais qu'il y a parfois ce qu'on peut appeler des pré-transferts. C'est-à-dire que la personne vient de la part de quelqu'un, ou bien a lu quelque chose, ou bien a entendu quelque chose de l'analyste, ou bien a regardé sur Google. Donc il y a déjà quelque chose qui peut se mettre en place avant même la prise de rendez-vous. Parfois d'ailleurs, certains patients peuvent venir parce qu'ils habitent tout près de la personne qu'ils appellent. Donc ça donne déjà des indications de quelque chose, de ce qui se met en place de forme imaginaire par rapport à l'analyste qui va être contacté. En ce qui me concerne, eh bien, je reçois la personne qui a pris rendez-vous en général par téléphone et la personne arrive et souvent je pose la question suivante. Eh bien, dites-moi ce qui vous amène jusqu'ici. Et à partir de là, eh bien, s'ouvre un espace qui peut être très surprenant. Et là s'installe l'envie de travailler ensemble, ou pas d'ailleurs, de déplier ensemble quelque chose. Moi, je sais que je suis dans une certaine fonction, qui est déjà chargée de beaucoup de représentations. Et je tiens cette fonction jusqu'à ce que ces représentations puissent se parler. Et c'est ça qui va mettre en place justement ce qu'on va appeler le transfert. Hein, et cette fonction va se modifier, se parler, se discuter, et se met en place à ce moment-là cette technique que l'on va nommer le transfert.
Bonjour, je suis Barbara. Ma question concerne le transfert, mais dans la vie. Quand vous parliez, vous expliquiez le sentiment d'amour et le sentiment amoureux qu'on peut avoir vis-à-vis de son psychanalyste. Je me demandais, en regardant en perspective ma vie, je me demandais si certaines relations amoureuses, spécialement les relations passionnées, dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de rationnel, ne sont pas aussi de l'ordre du transfert. Voilà, merci. Au revoir.
Merci Barbara pour votre question. Vous soulignez une chose qui est très importante, c'est la question de la passion. Effectivement, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'aspect rationnel. Il y a effectivement dans le transfert une dimension, parfois, passionnelle. Mais différemment, je crois, que dans la vie courante, dans la vie amoureuse, en dehors de l'analyse, le transfert est véritablement pris comme une technique liée à un certain savoir, liée à un certain accès à un savoir. Freud disait que dans la cure, justement grâce au transfert, le patient pouvait mettre en place une maladie imaginaire, qu'il appelait d'ailleurs la névrose de transfert. Cette névrose de transfert était précisément pour lui la possibilité pour le patient d'accéder à un certain savoir, à une certaine connaissance de son rapport à l'amour ou de son rapport à la vie tout court. Alors, dans la vie, je pense qu'on parle moins de technique quand on est amoureux, me semble-t-il. Et que, bien sûr, cela nous expose beaucoup. Quand on est amoureux, ça nous expose à des formes de fragilité. Mais si, dans la cure analytique, le transfert est un certain rapport à l'amour, un certain rapport à un savoir que l'on analyse dans le cœur de la relation thérapeutique, je crois malgré tout que dans une relation amoureuse, en tout cas, on peut espérer qu'on ne passe pas son temps à savoir pourquoi on s'aime.
Madame Lofer, bonjour. Une question me vient au sujet du transfert. Alors, dans le cadre des thérapies autres que la psychanalyse, les égos, psychologie, EMDR, TCC, par exemple, est-ce que vous pensez que le transfert, lorsqu'il n'est pas considéré pour ce qu'il est, en dehors de la psychanalyse, peut être au-delà d'être facilitateur, peut être un obstacle qui met en échec, peut-être plus souvent que ce qu'on peut penser, les autres thérapies, si l'on n'en tient pas compte. Voilà, merci beaucoup pour votre travail très synthétique et intéressant.
Vous avez raison de souligner que parfois, par rapport à d'autres méthodes thérapeutiques, comme peuvent être EMDR ou les TCC, hein, les thérapies comportementales et cognitives, on peut se poser la question de savoir comment agit le transfert. Et votre question me permet de dire que, effectivement, le transfert, c'est une des spécificités de la technique analytique. Parce que cette technique va mettre en mouvement l'inconscient. C'est le postulat de la psychanalyse. Dans les thérapies comportementales, qui sont donc une autre méthode, il y a un objectif qui est précisément d'agir sur un comportement ou d'agir sur une conduite qui peut faire obstacle à la vie d'un patient. Et donc, l'analyse qui va se mettre en place dans ces thérapies ne va pas être exactement de la même nature, si je puis dire, que l'analyse du transfert dans la psychanalyse. Freud a une phrase que je trouve tout à fait intéressante pour exprimer ce que c'est que l'inconscient et le transfert dans la cure. Il dit que dans la psychanalyse, il s'agit d'un traitement psychique par le psychisme. D'un traitement psychique par le psychisme, cela veut dire véritablement que on est dans une perspective où c'est l'inconscient qui, s'il est parlé, adressé à un analyste, peut agir sur la vie psychique du patient. C'est pourquoi, dans certaines techniques ou méthodes différentes, on va utiliser d'autres types de techniques. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'un thérapeute qui utilise le MDR ou qui utilise les techniques de thérapie comportementale ne va pas s'intéresser à la question du transfert. Mais j'insiste sur le fait que cette technique-là, elle a été précisément au cœur de l'invention freudienne.
L'inconscient avec Laurie Lefebvre sur France Inter.
Poursuivons notre réflexion avec vos questions.
Bonjour, j'ai parfois entendu le terme de contre-transfert. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il s'agit et quel est son rôle dans l'analyse ? Merci.
Grande question, théorique et pratique. Le contre-transfert, je dirais rapidement bien sûr, que c'est le transfert de l'analyste. C'est le transfert qu'a l'analyste sur son propre patient. En fait, ce qui est important de voir, là, dans le dispositif analytique, c'est que le transfert existe chez l'analyste et chez le patient. Donc le contre-transfert, c'est l'importance pour l'analyste de savoir quels sont ses propres mouvements d'affect dans le travail qui est en train de se passer avec le patient qui est en train de lui parler.
Bonjour, je m'appelle Pascal, je vous appelle de Haute-Garonne. Est-ce que vous, en tant que psychanalyste, vous pensez que tout passe par le transfert dans la relation psychothérapeutique, ou bien est-ce qu'il peut y avoir des choses qui y échappent ? Par exemple, le fait qu'on apprécie une thérapeute qui nous écoute de façon bienveillante, ou le fait qu'on fasse des reproches à un cadre thérapeutique qui nous semble inadapté, comme la dame qui dit « j'ai vécu l'horreur et vous ne me dites rien ». Je pense qu'on peut aussi interpréter ça sans faire appel à la notion de transfert. Et du coup, pourquoi est-ce que pour vous, les interprétations avec transfert semblent plus pertinentes que les interprétations sans transfert ? Merci.
Merci Pascal. Ce que je peux dire par rapport à votre remarque sur le fait que qu'on peut penser, par exemple, dans la relation psychothérapeutique avec quelqu'un qui nous écoute de façon bienveillante, je pense qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre du transfert qui peut se mettre en place. Et par exemple, si je reviens sur cette patiente qui me parlait dans une langue étrangère, c'est parce qu'elle était justement dans quelque chose de cette relation transférentielle qu'elle a pu s'autoriser à parler depuis la langue maternelle qui était la sienne, et de me faire entendre que je pouvais être étrangère à ce qu'elle vivait, mais la façon qu'elle avait de me faire entendre cette distance que je pouvais avoir, eh bien précisément c'est parce qu'elle était dans cette relation-là de transfert. Et que une fois qu'elle a pu s'autoriser à faire ça, je crois que quelque chose s'est déplacé d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire qu'elle a pu ensuite parler des choses terribles qu'elle avait pu vivre dans son pays en guerre. Donc oui, vous avez raison, il ne faut pas tout remettre du côté du transfert, mais je crois que pour l'analyste en tout cas, c'est un outil, c'est une technique qui est très importante à avoir en tête pour précisément analyser la relation qu'il peut y avoir avec un patient.
Oui, bonjour, ceci est un message d'Ariane. Alors, merci beaucoup pour cet exposé sur le transfert dont on sent bien la profondeur de champ. J'entends bien que le transfert est item ou dispositif spécifique dans le cadre précis d'une cure analytique. Cependant, il me semble qu'il peut y avoir des mécanismes, peut-être pas similaires, mais un peu cousins, à l'œuvre ailleurs dans la vie. Par exemple, dans les relations managériales, ou prof-élève, danseur-chorégraphe, ou comédien-metteur en scène. Là où il y a quelque chose de l'ordre du rapport asymétrique ou d'un rapport de savoir entre les deux. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Merci beaucoup, Ariane, pour vos questions et pour la façon que vous avez de déplacer un petit peu la question du champ de l'analyse. Très intéressant. Je crois que vous avez tout à fait raison de souligner la question d'un rapport de savoir et d'un rapport asymétrique. Et en vous écoutant, je me disais que, enfin, je pensais à l'exemple d'enfants ou de collégiens ou de lycéens qui peuvent être dans un transfert pédagogique. Et quand je dis ça, je dis que lorsqu'un enfant, un collégien, un lycéen est pris comme ça dans un transfert pédagogique avec son professeur, qu'il aime son prof, qu'il a envie de ne pas le décevoir, par exemple, eh bien, il va mobiliser, Freud dirait une libido, il va mobiliser une énergie, précisément, qu'on peut qualifier de transférentielle. Hein, c'est pour ça que je crois que c'est aussi, même si on ne va pas analyser ce transfert de la même façon qu'on peut l'analyser dans une cure, cette énergie mise en place, eh bien, est aussi très importante précisément pour produire ce qu'a envie de produire l'enfant, le lycéen, le collégien.
Bonjour, je vous remercie de votre podcast que j'ai trouvé particulièrement précieux, notamment du fait que vous témoignez de votre pratique. C'est assez rare à entendre et je remercie France Inter pour cette formidable émission. Voilà, je me demandais, qu'est-ce que vous pourriez nous dire concernant la fin de l'analyse au regard de ce que vous développez aujourd'hui concernant le transfert, l'expérience du transfert, l'amour du transfert? Qu'est-ce qui se passe finalement selon vous à la fin d'une analyse? Et aussi, lorsque vous évoquez l'analyste comme symptôme, quelle est la finalité de ce symptôme-là? Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup Julie pour vos questions, vos remarques. Alors c'est une grande question la fin de l'analyse. Bien sûr. Et je vous remercie de poser cette question en forme de perspective. Je dirais que le symptôme, c'est la signature du patient. Voilà. C'est ce qu'il va conserver comme quelque chose qui va lui appartenir en propre. Je dirais la chose suivante. Quand on arrive à faire de son symptôme, de ses symptômes, une force ou une ressource pour vivre, eh bien, je ne veux pas donner de prescription particulière, mais je pense que là, on peut s'approcher de quelque chose qui pourrait ressembler à une fin d'analyse. Bon, je le dis comme ça avec beaucoup de précaution. La fin d'une analyse, c'est le moment de conclure, si je puis dire. Ça, c'est Lacan qui le dit comme ça. Et c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on se pose toujours la question de savoir, mais comment on termine une analyse ? Est-ce que la fin de l'analyse marque la fin du transfert ou est-ce que c'est l'inverse ? Parfois, il y a des fins d'analyse, ou en tout cas des personnes, des patients qui veulent arrêter une analyse, alors même que le transfert n'est pas tout à fait déplacé ou pas tout à fait terminé. Eh bien, je dirais que lorsque le patient s'aperçoit que quelque chose dans le transfert commence à se modifier, au point où les mouvements d'affect ne sont plus tout à fait les mêmes, peut-être que là, on peut penser que quelque chose de la fin de l'analyse se met en place. Mais je dirais aussi que la fin d'une analyse, je dirais que c'est peut-être le moment où le patient est suffisamment averti de lui-même. Et Lacan a une très jolie phrase. Il dit ceci, « Qui n'est pas amoureux de son inconscient, erre. » Qui n'est pas amoureux de son inconscient, erre. Eh bien, je dirais que c'est peut-être ça la fin d'une analyse. Être amoureux de son inconscient plutôt que de son analyste. Merci à tous pour vos questions. Je remercie toute l'équipe, Thomas Langlin à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions et Audrey Ripouille à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec le docteur Nasio qui vous présentera sa façon de travailler à partir de 3 cas de patients. D'ici là, vous pouvez écouter son podcast sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr et lui laisser vos messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 16 avril pour évoquer avec vous les phrases entendues autour de la question de la sexualité.